Bienvenue à cette nouvelle discussion, au cœur de la physique. Aujourd'hui, on plonge dans des notions fondamentales, quantité de mouvement, collision, des trucs essentiels, quoi.
Oui, bonjour. Ce sont vraiment les bases de la mécanique classique. C'est ce qui nous aide à comprendre comment les objets interagissent, comment ils bougent.
Notre but, c'est de démystifier un peu tout ça. On pourrait penser à une partie de billard ou même au lancement d'une fusée. C'est partout. Alors, décortiquons ça.
Tout à fait. Ces concepts expliquent vraiment le mouvement et les interactions autour de nous.
Commençons par le début, peut-être. La quantité de mouvement, qu'est-ce que c'est, simplement?
Alors, la quantité de mouvement, on peut dire que c'est l'élan d'un objet. C'est une mesure qui combine sa masse et sa vitesse.
L'élan, d'accord. Donc, plus c'est lourd ou rapide, plus il y a d'élan.
Exactement. Et c'est une grandeur vectorielle. Très important. Ça veut dire qu'elle a une direction, pas juste une valeur.
Ok, je vois. Et qu'est-ce qui fait varier cet élan, cette quantité de mouvement?
Ah, là, on touche à l'impulsion. L'impulsion d'une force, c'est l'effet d'une force qui agit pendant un certain temps.
Comme quand on pousse une ballantoire.
C'est ça. Une petite poussée courte, petite impulsion, ça change peu l'élan. Une grosse poussée, bien longue, là, l'impulsion est grande et ça change beaucoup l'élan.
Logique.
Et il y a un théorème pour ça, le théorème de l'impulsion. Il dit que l'impulsion totale reçue, eh bien, c'est égal au changement de la quantité de mouvement. C'est direct.
D'accord. Et ça nous amène à une idée vraiment centrale, non? La conservation.
Ah oui, la conservation de la quantité de mouvement. C'est une loi fondamentale en physique. Si on a un système d'objets et qu'il n'y a pas de force extérieure nette qui agit dessus, on dit qu'il est isolé.
Mmh.
Alors, la quantité de mouvement totale de ce système, elle ne change pas. Elle reste constante.
Même si les objets à l'intérieur bougent, se heurtent.
Oui, même s'ils interagissent fortement entre eux. L'élan total du groupe, lui, il est conservé.
C'est là qu'interviennent des exemples comme le recul d'une arme, quand on tire.
Ou une fusée.
Exactement.
Pour la fusée, c'est très parlant. Elle éjecte du gaz vers le bas, donc une masse avec une certaine vitesse.
D'accord.
Pour que la quantité de mouvement total du système fusée plus gaz reste constante, elle était nulle au début, eh bien la fusée doit gagner une quantité de mouvement vers le haut.
C'est puissant comme loi. Ça permet de voir les choses simplement.
C'est ça. On regarde avant et après l'interaction, sans devoir analyser toutes les forces internes complexes.
Et quid des chocs, les collisions, quand ça, bam, ça tape fort.
Oui, les chocs ou heurtés, comme dans nos sources. Là aussi, la conservation s'applique au système global. Pendant le choc, il y a des forces très intenses, dites impulsives.
Qui durent pas longtemps, c'est ça?
Très brièvement, oui. Mais si on regarde juste avant et juste après le choc, pour le système des objets qui entrent en collision, la quantité de mouvement total est la même.
Même si le résultat est différent. Parfois, ça rebondit, parfois, ça reste collé.
Exactement. C'est ce qui distingue les types de chocs. Un choc élastique, comme deux boules de billard, idéalement.
Oui.
Non seulement la quantité de mouvement est conservée, mais aussi l'énergie cinétique, l'énergie du mouvement. Ça rebondit bien.
Et si ça reste collé?
Comme?
Deux voitures après un accident?
Alors là, c'est un choc parfaitement inélastique. Les objets forment un seul bloc après. L'énergie cinétique, elle, n'est pas conservée. Elle part en chaleur, en déformation.
Ah, d'accord.
Mais la quantité de mouvement totale du système, elle, est toujours conservée si le système est isolé. Et bien sûr, il y a aussi les chocs obliques, pas juste frontaux.
Compris. Un autre point important, le centre de masse. C'est quoi ce truc?
Le centre de masse, imaginez que c'est le point moyen de la masse d'un objet, ou même d'un groupe d'objets, un système. C'est un point géométrique, un barycentre des masses, en quelque sorte.
D'accord, un point d'équilibre.
Et pourquoi il est si spécial?
Ce qui est fascinant, c'est son mouvement. Le mouvement du centre de masse d'un système dépend uniquement des forces extérieures qui s'appliquent sur le système. Uniquement les forces extérieures. Donc les forces internes, comme pendant un choc ou une explosion.
Elles ne changent absolument pas la vitesse du centre de masse. Si la somme des forces extérieures est nulle, même si le système explose en 1000 morceaux, le centre de masse continue tranquillement sa trajectoire, comme si de rien n'était.
Incroyable! C'est donc une autre façon de voir la conservation de la quantité de mouvement total.
C'est tout à fait lié, oui. La vitesse du centre de masse est directement proportionnelle à la quantité de mouvement total du système. Si l'une est constante, l'autre aussi.
Bon, alors, si je tente de résumer tout ça, l'impulsion, c'est une force dans le temps qui change l'élan, la quantité de mouvement.
C'est ça.
S'il n'y a pas d'impulsion extérieure nette, l'élan total d'un système isolé se conserve.
Oui.
Et le mouvement du centre de masse de ce système reflète cette conservation. Il n'est pas affecté par ce qui se passe à l'intérieur. C'est un fil rouge assez puissant, non?
Précisément. C'est là toute la beauté de ces concepts quantité de mouvement, conservation, centre de masse. Ils nous donnent une vue d'ensemble, ils permettent de prédire le comportement global de systèmes, parfois très complexes, sans se perdre dans tous les détails internes. C'est un outil d'analyse vraiment efficace.
Vraiment intéressant. Et pour finir, une petite question pour la route. Si on regarde autour de nous, une foule, un vol d'oiseaux, des choses qui paraissent chaotiques, est-ce qu'il n'y aurait pas là aussi, à une certaine échelle, des lois de conservation qui s'appliquent si on savait bien définir le système?
C'est une excellente question de perspective, effectivement. La physique nous montre souvent que l'ordre se cache derrière un désordre apparent, si on sait où regarder.